Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle visite radiophonique en compagnie de Bénédicte Bougnol du pays d'art et d'histoire Mandelotte en Gévaudan. Salut Béné.
Bonjour.
Et Caroline Entregue du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Salut Caro.
Bonjour.
Alors Caro, on va aller où aujourd'hui?
Alors comme on l'avait dit, on va sur un village non loin de Mende où on y passe souvent sans vraiment s'arrêter et qui mérite quand même un petit peu le détour.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entregue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le pays d'art et d'histoire Mende-et-Lot en Gévaudan et le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Allez, un peu de route, ça a été rapide, hein. On arrive, on est où?
Alors, on est ici face à un paysage typique de ce qu'on appelle les avant-cosses. On y retrouve à la fois des vallées assez ouvertes, comme celle devant nous du Lot et de la Genèse, et puis des micro-vallées, que l'on appelle des vallates, et qui s'enroulent autour de Truc. Sur la commune, on peut citer plusieurs vallates, Raspaillac, la Conquête ou encore le Largout, qui sont des petits ruisseaux qui forment comme ça des petites dépressions et des petits vallates.
Alors, tu as trouvé où on était?
Nous sommes à Barjac.
Oui, c'est ça. Et donc Barjac, l'origine de ce nom signifie « près de l'eau », puisque le village se situe entre Mende et Chanac, sur l'axe routier de la route nationale 88. Il y a aussi la voie de chemin de fer sur la ligne Le Monastier-la-Bastide, et donc on est dans la vallée du Lot.
Et du coup, Barjac est une commune assez étalée, avec un bourg principal qui est Barjac, et 13 hameaux, plutôt sur les hauteurs, hormis les Cailles. On va retrouver Sénaré, où nous sommes, la Planchette, la Roche, la Vigne, le Récurat, le Villaré, les Cailles, Mégentel, Pierrefiche, Raspaillac, Roucoulette, Vialasba et Vialas-Haut. La plupart de ces hameaux y sont sur des cosses ou des trucs positionnés en mi-pente sur un petit replat qui les protège à la fois du vent. Ils sont quasiment tous orientés sur le versant sud, mais du fait de la multiplication de ces petits vallates et de ces trucs, les villages ils ont vraiment une identité très marquée pour chacun. Ils sont principalement tous bâtis en calcaire, hormis quelques hameaux qui sont plutôt sur le nord-ouest de la commune, comme Pierrefiche par exemple, où l'on va retrouver ici du schiste. Donc c'est vrai qu'on a une commune assez étalée, mais avec une grande richesse architecturale et paysagère, selon le truc où on est positionné ou le vallate sur lequel on est orienté. On est dominé au sud par le cos de Sauveterre et à l'est par le cos de Changefège, à l'ouest par le plateau ou truc du Castelviel ou truc de Sénaré.
Rappelle-nous ce que c'est un truc.
Alors un truc, c'est un mot d'origine occitane qui désigne en fait en géographie une montagne arrondie, un relief qui est isolé par l'érosion. Techniquement, c'est une butte témoin karstique. Et c'est-à-dire en fait des mini-cosses qui sont des résidus de grands cosses. Tu dois connaître le truc de Fortunio, le truc de Grèze ou le truc de Balduc.
Et puis ici, on est sur un paysage naturel qui lui aussi est remarquable. On est sur un site Natura 2000 qui s'appelle les falaises de Barjac et le cos de Blanquet. Et ce site abrite une faune et une flore remarquables de par cette diversité d'habitats naturels avec des falaises calcaires, des pelouses calcaires à orchidées, une ripisylve, donc la végétation qui est le long de l'eau, ou encore des grottes. Il y a bien sûr le rocher de la Vierge également et des terres bleues. Et donc ici, les orchidées et les chauves-souris sont protégées.
Alors, il y a un autre patrimoine naturel remarquable, plus dans la vallée, hein, au bord du Lot, c'est le seuil naturel en tuf sous la Font del Lach. En fait, c'est une tuffière, et c'est une source qui occasionne des concrétions calcaires avec des formes un peu particulières. C'est le lieu où se forme le tuf, tu sais, cette roche poreuse et légère. Alors aujourd'hui, ce site est protégé, hein, mais il a été longtemps exploité pour en extraire des pierres qui servaient à la construction, et notamment pour le chantier de la cathédrale de Mende.
Oui, beaucoup de maisons à colombage de Mende, construites en pin de bois, sont remplies avec du tuf, qui est une pierre qui est isolante, ce qui est assez intéressant aussi, et légère surtout.
Du coup, qu'est-ce qu'on connaît sur les origines de Barjac ?
Alors, on sait que l'occupation du territoire ici est très ancienne. On a retrouvé notamment des vestiges qui datent de l'âge du fer, comme un oppidum sur le plateau du Castelviel. On a également retrouvé des gisements gallo-romains près du hameau des Caires. Mais c'est vraiment au Moyen-Âge que Barjac apparaît dans les textes. Ce territoire fut le siège de la baronnie de Sénaré, tu sais, l'une des 8 baronnies du Gévaudan. Est-ce que tu te rappelles de la légende fondatrice que l'on t'avait racontée lors de la visite radio de Noël, tu sais, sur les contes et les légendes ? Tu te rappelles, il y a 8 baronnies, il y a Apché, Canillac, Florac, Mercœur, Peyre, Randon, Tournelle et Sénaré.
Je me souviens.
La baronnie de Sénaré est la plus petite des 8 baronnies et ses possessions s'étendent des gorges du Tarn jusqu'à Grèze. Mais le problème de la baronnie de Sénaré, c'est qu'en fait, ses possessions sont enfermées dans les terres épiscopales entre Mende et Chanac, et donc elles vont rapidement être convoitées par les évêques de Mende. Et donc la seigneurie aussi va accumuler des dettes et va rapidement perdre de son importance. Alors, on peut penser que le château de la baronnie de Sénaré s'est levé sur le truc du même nom, Castelviel, ça fait référence à un château, mais il ne reste aucun vestige du château, donc on a avancé plusieurs hypothèses pour retrouver sa situation. En premier lieu, on pense que peut-être ce château était construit donc sur la montagne de Castelviel, sinon il était sur le truc de Sénaré. La statue de la Vierge aurait été érigée à l'emplacement supposé du château. Et sinon, il y a un texte en fait qui nous laisse penser que peut-être il y avait 2 châteaux, un sur chaque montagne. Alors, toi, Ludo, qui est un ancien seigneur de Sénaré, est-ce que tu sais ce qui est représenté sur le blason de la baronnie ?
Alors j'ai honte de te l'avouer, mais non.
Pourtant, tu as longtemps parcouru ces terres. Allez, je te donne un indice avec la devise. D'azur au mouton paissant d'argent, accolé et clariné de gueule.
Alors, c'est un mouton, certainement, avec une médaille au cou qui serait peut-être bleue.
Alors c'est pas une médaille, c'est une cloche et elle est rouge. Voilà.
Et du coup, pour faire le lien avec la question de l'agriculture, du coup, on compte ici de nombreuses exploitations sur Barjac. Et comme les villages, on a un paysage agricole avec de grandes diversités. On a un très beau maillage bocager et on a à la fois des cultures de céréales et de céréales, blé et orge, qui servent principalement pour l'alimentation animale. Et des milieux ouverts, on en a parlé pour Natura 2000, des prairies temporaires, des prairies permanentes d'estive, on a beaucoup de landes ou d'espaces de fourrage. Et c'est vrai que tous ces milieux ouverts, qui sont notamment en pente, ont tendance à se refermer aujourd'hui de par une certaine déprise agricole. On nous a dit, mais on n'a pas vérifié les chiffres, qu'auparavant il y avait 12 agriculteurs dans le village de Barjac et qu'aujourd'hui il n'y en aurait que 2. Mais c'est à prendre avec des pincettes, nous n'avons pas pu vérifier ces chiffres. Et donc peut-être, Ludo, avant de quitter Sénaré, où nous sommes et qui nous a permis de lire ce beau paysage alentour, tu peux voir autour de toi cette richesse patrimoniale. Nous sommes juste à côté du four à pain. On retrouve énormément de bâtiments avec des toitures à la Philibert de l'Orme. On en parlera tout à l'heure. Et tous ces systèmes de murets, de terrasses, de jardins qui viennent s'insérer dans la pente et profiter de l'ensoleillement côté sud.
Allez, on vient de descendre en bas à Barjac, un climat un peu plus doux. On n'a pas le vent qu'on avait en haut ce jour d'enregistrement. Et on est devant l'église, Béné.
C'est ça, devant l'église. Mais il faut savoir qu'avant, il existait une autre chapelle à Barjac. Elle était plutôt rive gauche du Lot, à 500 mètres du village. Et elle était encore cadastrée jusqu'au 19e siècle, mais elle a disparu complètement aujourd'hui. Alors cette petite chapelle, elle était dédiée à Saint Véran, qui est un évêque de Cavaillon, mais qui était originaire du Gévaudan. Et il y avait une source à côté de cette petite chapelle. Et l'histoire dit que cette source guérissait les enfants de la teigne. Voilà, mais l'église de Barjac, l'église Saint-Privat, elle est édifiée au XIVe siècle. Et d'après l'inscription sur le portail d'entrée de l'église que tu peux voir là, elle a été consacrée en 1324. Alors elle a été agrandie au fil du temps, elle va aussi subir des dégradations au moment des guerres de religion et aussi au moment de la Révolution, comme beaucoup d'églises lozériennes. Et ensuite, c'est en 1965 qu'elle va être restaurée avec l'aide des paroissiens, et c'est notamment à ce moment-là qu'elle va être complètement décroutée à l'intérieur.
pour décrire à nos auditeurs, hein, cette église, c'est une église qui est assez sobre. On a en réalité une nef unique avec deux travées. On a une voûte en berceau qui est brisée, qui débouche sur un chœur voûté en cul de fou. Hein, et on a quatre chapelles latérales qui viennent s'ajouter à cette nef. Le clocher n'est pas d'origine, vraisemblablement. Il a été construit au 19e siècle sur la chapelle nord. En 2016, on a démonté et remplacé la cloche dans le bon sens, puisqu'en fait, en se balançant, elle frappait le mur et fragilisait l'ensemble du monument. Voilà. Donc on a devant nous cette façade assez simple, avec cette porte d'entrée et le vitrail au-dessus. Et on a sur ce mur pignon trois ouvertures, dont une en œil de bœuf. Et on va retrouver tout autour de la chapelle certaines petites traces plus anciennes, des visages sculptés, etc. Il ne faut pas hésiter à rentrer dans le cimetière, qui est un cimetière enherbé très mignon, pour voir l'entièreté de l'église.
Voilà, un cimetière accolé à l'église, comme ça se faisait avant.
Exactement, Ludo, tu suis bien les visites.
J'essaye.
Oui, donc tu vois, c'est quand même une église qui a une fondation ancienne. On l'a vu que son architecture est très sobre, mais malgré tout, elle garde des éléments de décor intéressants. Par exemple, dans les chapelles, tu peux voir qu'on retrouve des enfeux qui datent du XIVe siècle. On retrouve aussi les armes de la famille de Sénaret. Il y a aussi un élément de décor intéressant, c'est une stèle discoïdale en calcaire. Elle est de facture très simple et elle est composée d'un disque de pierre portant au centre une croix grecque inscrite dans une large bordure circulaire. Alors, on sait que ce genre de stèle est utilisée dès le Moyen-Âge comme stèle funéraire, mais ici, c'est impossible de la dater précisément. À l'intérieur de l'église, on retrouve aussi deux statues en bois peint et doré qui datent du XVIIIe siècle, qui représentent Saint Privat et la Vierge. Et dans une autre chapelle de l'église, on va aussi retrouver une mosaïque contemporaine, alors, qui reprend des thèmes symboliques de la Bible, comme le cerf buvant de l'eau de la fontaine, le poisson, le feu, le blé, la vigne, l'olivier, la croix et la Trinité.
Et du coup, Ludo, on te propose de passer maintenant dans l'ancienne rue principale du village, qui est la rue des Esclopes.
Béné, c'est quoi un esclope ?
Alors, esclope, en occitan, c'est un mot qui signifie sabot. En fait, à l'époque, dans la rue des Esclos, c'était la rue principale qui menait à l'église, et il y avait un sabotier qui vendait des sabots aux gens qui venaient à la messe.
Allez, on vient de passer cette rue des Esclopes, une très jolie rue, petite, hein, mais une très jolie rue, Caro.
Oui, on retrouve là le centre un peu historique de Barjac, qu'on connaît mal finalement, puisqu'aujourd'hui on traverse Barjac par les parties plutôt récentes, mais on retrouve voilà, des maisons en calcaire, des pigeonniers, des toitures en schiste, en calcaire, de très beaux petits jardins clos. Voilà, et là on s'arrête devant une maison en L, qui est rue des Esclos, nous sommes sur la rue principale de Barjac, qui est un ancien corps de ferme en L. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit encore devant nous cette terre à battre, avec ses grandes dalles de calcaire. On a à la fois une toiture à la Philibert, dite à la Philibert de l'Orme, qu'on retrouve vraiment tout le long de la vallée du Lot. On en a déjà parlé souvent, notamment par exemple au Salel. Et puis la partie bergerie étable avec un toit à deux pentes. Ce qui est intéressant aussi sur ce bâtiment, c'est qu'on retrouve la typologie de l'architecture de la vallée du Lot aussi par la façade de la maison qui possède un pigeonnier. On trouve souvent sous la vallée du Lot une maison à trois travées, donc trois fenêtres, et au-dessus de la fenêtre centrale, un pigeonnier. On voit que la maison a encore gardé ses volets à cadres, les volets qu'on appelle dits lozériens. Et puis on retrouve aussi les traces des enduits anciens avec les sables locaux qui sont un peu ocre doré.
Voilà, et pour compléter ce que dit Caro, en fait, elle vous a dit qu'on était la rue principale de Barjac. Il faut savoir qu'avec la nouvelle route nationale, en fait, toute la circulation a été déplacée. Et donc, on ne circule plus trop sur cette rue principale, alors que c'était vraiment le centre du village. Et qu'à chaque entrée du village, on pouvait retrouver un hôtel-restaurant. C'était vraiment un marqueur. Et donc, côté pont de la Gynase, on avait l'hôtel Rabier. Et de ce côté-là, on avait l'hôtel Paradis. L'hôtel Paradis, c'est vraiment une institution à Barjac et il fonctionne depuis plusieurs générations, voilà, vraiment à l'entrée du village.
Voilà, qui fonctionne toujours. On y mangeait très bien, ça fait un moment que je ne suis pas allé, mais j'imagine que ça n'a pas changé ça. Elle est un peu plus loin, il y a la gare, donc on entend, on est collé à la route nationale. Donc cette gare de Barjac, très jolie, qui n'est plus ouverte.
Non, je crois qu'elle est transformée en logement maintenant. Il y a quand même un arrêt, le train s'arrête toujours en gare de Barjac malgré tout. Et en fait, on voit bien ici, au niveau sonore, qu'on est non loin de la route nationale et de la voie de chemin de fer. Ça nous montre que les nouvelles voies de communication, en fait, vont suivre le Lot. Tu te rappelles de cette ligne, Ludo? On t'en parle très souvent dans nos visites. Qu'est-ce que c'est, cette ligne de chemin de fer, pardon?
Le translosérien.
Oui, bien sûr, Ludo. Mais tu connais par cœur, mais je vais quand même te rappeler que c'est en 1884 que la ligne Mende-le-Monastier est inaugurée. Et le deuxième tronçon Mende-la-Bastide sera achevé en 1902. Alors, je te rappelle aussi que cette ligne, elle est longue de 77 km et qu'elle coupe le département d'est en ouest. Mais pour notre visite d'aujourd'hui, il faut savoir que la gare de Barjac, elle était très importante. Elle était presque aussi importante que celle de Mende parce qu'on chargeait ici des marchandises, notamment du bois et du minerai. On va t'en reparler tout à l'heure, mais on chargeait ici de la barite.
Et du coup, on est, pour rebondir sur ce que dit Bénédicte, on est juste devant ce qu'on appelle la petite vitesse, qui est quand même assez grande par rapport aux autres tailles de gare que l'on peut voir en Lozère. Donc le bâtiment est assez classique, hein. On retrouve la même typologie dans toutes les gares de Lozère. On a la partie gare en rez-de-chaussée, le logement à l'étage, aujourd'hui tout est un logement. Et sur le côté, donc ce bâtiment petite vitesse, qui là est en pierre. Sur d'autres gares plus petites, on va la retrouver en bois. Mais ici, voilà, cette gare montre qu'elle avait une certaine importance de par cette construction de la petite vitesse sur deux rangées et de plus en pierre. Et donc là, Ludo, on va prendre la voiture et partir dans un autre hameau, Recoulette. I was walking through icy streams that took my breath away. Moving slowly. With water over glacial plains, and I walked off you, and I walked off an old me, old me. Oh my, I thought it was a dream, so it seemed.
On vient d'arriver à Recoulette.
Oui, Ludo, et justement, est-ce que tu sais ce qu'est la ruine juste devant nous, avant que l'on tourne?
Alors, Béné me l'a dit, me l'a soufflé dans le creux de l'oreille, donc c'est un pigeonnier.
Oui, c'est un très bel exemple de pigeonnier circulaire en calcaire, où on voit très bien les loges de pigeons à l'intérieur, puisqu'une partie est démolie. Alors autrefois, c'était le privilège de la noblesse d'avoir un pigeonnier. C'était édifié souvent sous le domaine, un peu isolé à proximité des châteaux, et ça pouvait être aussi associé à d'autres bâtiments de la propriété. Le plus ancien pigeonnier, il date des premières domestications du pigeon, que l'on peut situer sans trop de précision à l'époque néolithique. Et les Romains possédaient de grands pigeonniers appelés columbarium, dotés de niches aménagées dans le mur, un peu comme celles que l'on voit ici. Et c'est par analogie du coup qu'on en appelait du même nom les édifices mortuaires, les columbariums.
Oui, parce qu'il est assez grand celui-là.
Celui-là est quand même assez gros. Alors, c'est vrai qu'on le voit très bien quand on vient depuis Marvejols. Et je ne pense pas connaître de pigeonnier aussi remarquable que celui-là. J'espère qu'il tiendra encore longtemps.
Bon, si tu veux, maintenant, je peux te parler un petit peu du château de Recoulettes. Alors, tu sais qu'à l'origine, c'était un poste de veille du château de Sénaré. Alors, après, par la suite, il va être agrandi. Il va même être brûlé et démoli lors des guerres de religion. Il ne reste alors qu'une base d'une tour ronde à l'ouest. Et en fait, il va y avoir plusieurs propriétaires qui vont se succéder. Et la dernière transformation de la demeure daterait du 19e siècle.
Peut-être pour la décrire à nos auditeurs, hein, c'est un château d'un plan carré où on va retrouver les espaces plutôt de vie et de représentation au premier niveau. Voilà. Et la partie basse va servir de stockage, etc. Et on a un joli toit à quatre pans, couvert en lauze, avec trois lucarnes sur la façade devant nous.
Et une fontaine dans le jardin.
Et une fontaine dans le jardin, c'est ça qui borde l'allée plantée pour rentrer dans ce château, qui a également un très joli parc.
Puisqu'on parle du parc du château, hein, on peut dire aussi que avec ce château, il y avait un grand domaine agricole, et ce grand domaine agricole a servi, puisqu'en 1851, juste à côté, on a établi une école d'agriculture, en fait. Une école d'agriculture a été créée ici, à Recoulettes. On sait qu'en 1865, par exemple, elle comptait 32 élèves et qu'elle va fonctionner en lien avec l'école d'agriculture de Marvejols jusqu'en 1990. Et on voit les restes de bâtiments de l'autre côté de la route, près de la grande grange dite à la Philibert de l'Orme.
Du coup, ce domaine agricole a un petit peu été démembré et vendu petit à petit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Recoulettes est un assez gros lotissement. Il faut savoir que la commune de Barjac s'est énormément étendue, avec de nombreuses extensions pavillonnaires qui peuvent parfois être assez impactantes sur le paysage et assez banalisantes.
Et Béné, on n'a pas croisé aussi un autre domaine, un autre château à côté de la gare ?
Oui, c'est ça. En face de la gare, il y a le château de la Vigne. Alors lui aussi, comme le château de Recoulettes, c'était un poste de veille. À l'origine, c'était un poste de veille du château de Sénaré. En fait, un poste de veille, c'est une maison forte pour la protection militaire. Alors le château de la Vigne va devenir un château au XVIe siècle. On sait qu'il est occupé en 1580 par les troupes de Mathieu Merle. On sait ensuite qu'au XVIIe siècle, le château est complètement détruit pour être reconstruit en 1677. On sait aussi qu'il a appartenu de 1919 aux années 2000 à peu près à la famille Saboulin-Boléna. Alors la famille Saboulin-Boléna, c'est une famille assez connue en Lozère et importante pour Barjac, notamment Roger de Saboulin-Boléna, qui était ingénieur des eaux et forêts, et marquis de Barjac, a été maire de 1983 à 1995. Alors pour la petite histoire, au château de la Vigne, on sait que Alphonse de Lamartine a logé dans le château. Et une autre petite anecdote, de nombreux enfants de Barjac ont parcouru le parc du château, puisqu'il a servi de camp de base aux louveteaux du village dans les années 60 à peu près.
Puis pour rebondir sur ce que disait Béné, c'est vrai qu'on a beaucoup de châteaux ici sur cette vallée du Lot, qui était ce qu'on appelle une manse. C'était vraiment un domaine agricole qui petit à petit a servi de lieu de défense et petit à petit est devenu une maison bourgeoise au fur et à mesure. Alors sur le château de la Vigne, on voit tout d'abord une enceinte avec un magnifique mur en pierre sèche, avec un parc qui est très arboré, qui nous empêche de voir la façade de ce château. Alors ce château, il est composé de plusieurs bâtiments. Il y a une chapelle, une écurie, un jardin et une ferme. À peu près la même chose qu'ici à Recoulettes et qu'on va retrouver aussi au château de Ressouches.
Alors sur la route qui part de Barjac à Chabris, alors, je vous remercie de me faire découvrir dans chaque émission des endroits insolites. On est où la Béné?
Alors on t'a parlé du riche patrimoine naturel, on a vu un petit peu le riche patrimoine culturel de Barjac et là on est devant un riche patrimoine industriel. Est-ce que tu savais qu'à Barjac il y avait d'anciennes mines de barite?
Mais pas du tout.
Et voilà, en fait, les mines de barite vont faire la richesse de Barjac au début du XXe siècle. Elles sont exploitées à peu près jusque dans les années 50. On sait qu'il y avait à peu près entre 20 et 30 salariés, et c'était de la main-d'œuvre locale qui travaillait dans ces mines, c'était des paysans mineurs. Alors, la barite, c'est un minerai relativement rare à l'époque et qui a longtemps été employé pour la fabrication de peinture. Il servait de base pour la composition de certains pigments comme le jaune. Alors pour extraire le minerai de barite, il faut de profondes galeries. Et en fait, ensuite, on le ramenait à la surface par des wagonnets. Et on est ici juste devant des espèces de cheminées pour des quais de déchargement. En fait, les camions se mettaient en contrebas et on versait le minerai dans les remorques. Donc aujourd'hui, la plupart des installations ont été démantelées. Il ne reste que quelques vestiges.
Voilà, et là, on est devant ce mur construit en pierre d'une dizaine de mètres à peu près, avec ses ouvertures pour faire glisser la barite directement dans les camions.
C'est ça. Alors, c'est un mur en pierre, mais surtout en béton, ouais, parce que déjà, au début du XXe siècle, on utilisait le béton pour les constructions.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, juste derrière ces quais de déchargement, il y a encore les tunnels où on venait extraire la barite et qui empêchent aussi la construction de Barjac sur ce côté-là.
Allez, fin d'étape de cette visite radiophonique à Mégentel.
Exactement, on est ici sur le coudère de Mégentel, devant l'ancienne école qui a été transformée en logement communal. Alors, il y avait une école dans le village de Barjac, dans la vallée, mais il y avait également des écoles dans tous les hameaux environnants.
Qu'est-ce que c'est exactement un coudère?
Du coup, un coudère, c'est un grand espace ouvert que l'on peut appeler coudère ou commun également, qu'on va retrouver dans la plupart des villages de plateaux de Massif Central et qui a la particularité de comporter un grand espace libre qui structure souvent l'organisation des villages. Le bâti il est disposé autour de cette grande place, donc on va retrouver sur cet espace ouvert, donc là en contrebas on voit bien le four à pain et juste au-dessus de nous le fer à doux, donc toutes ces fonctions un peu communes, communautaires du village. Dans le Lot on peut aussi appeler ça un cossanel, un coudère, un communal, voilà. Et comme on le disait, chaque village avait sa spécificité géologique. Là on est à la fois sur du grès et du calcaire ici à Mégentel. Et ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est la ferme qui est juste devant nous, qui est une très belle ferme du XVIIIe siècle, qui a une loggia, donc une terrasse couverte avec un poteau en pierre qui couvre l'entrée, une magnifique lucarne pignon avec une couverture en los calcaire. Là, on est vraiment sur de l'architecture un peu plus cossonarde. Et la partie écurie et ferme à côté, avec une toiture à la Philibert, plus haut sur le territoire Vallée du Lot. Et donc on sait qu'elle est datée certainement de 1771, puisque c'est sur le linteau de la porte, et 1775 sur la cheminée.
Deux petites actus pour finir cette émission. Caron, on commence par toi.
Oui, on est à Mégentel et comme on le voit sur ce coudère, la mairie est en train de réaliser des travaux. Elle est en train de refaire un peu petit à petit tous les espaces publics de ces 13 hameaux. Ils ont commencé par le hameau de la Roche et donc ici le hameau de Mégentel qui commence à être réaménagé. Et puis à un aménagement récent, il y a également eu la médiathèque et la mairie qui viennent d'être terminées.
Alors moi, en actualité, je peux vous recommander aussi tous les sentiers de randonnée. En fait, la commune a balisé de nombreux sentiers pour découvrir tous les patrimoines de la commune, donc le patrimoine culturel, naturel et industriel. Et donc, Ludo, dimanche, si tu ne sais pas où aller te promener, je peux te conseiller par exemple le chemin des écoliers, qui est très sympathique.
Et enfin, une petite anecdote pour cette émission.
Alors Ludo, puisque Sénaré est ton fief, est-ce que tu sais pourquoi il y a une statue de la Vierge en haut du truc?
Alors ce n'est pas vraiment mon fief, j'y ai juste habité. Mais oui, je sais pourquoi, vu que j'y ai habité, j'ai posé la question. Si mes souvenirs sont bons, c'est qu'il y a eu un glissement de terrain, il y a tout un pan de la falaise qui est tombé, et il y a ce côté-là qui est resté intact.
Oui, c'est à peu près ça. En fait, la statue fut érigée pour protéger le village de Barjac d'une malédiction. durant la Révolution, le curé de Barjac, prêtre réfractaire, a été exécuté. Depuis cet épisode, la paroisse s'est crue maudite. Et donc, lorsque la montagne de Sénaré s'est mise à glisser étrangement et qu'elle a englouti plusieurs habitations en contrebas, on va évoquer une vengeance. Et donc, le phénomène va aussi se reproduire en 1856, puisqu'il y a une partie du hameau de Fouriès qui a été... qui a disparu lors d'un glissement de terrain. Et en fait, les habitants vont se tourner vers Notre-Dame de la Miséricorde et vont ériger la statue pour être protégés. Et depuis, ça ne s'est plus jamais reproduit.
Et en parlant d'éboulement, Ludo, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'a utilisé la mairie pour se protéger des chutes de blocs récemment ?
Ça, je ne sais pas.
Donc, suite à un éboulement en 1995 qui a fait une victime, avec plusieurs de centaines de tonnes de rochers qui est tombé depuis les balcons du Causse de Changefège, la municipalité a mis en œuvre un énorme chantier d'environ 100 000 pneus récupérés pour construire une barrière protectrice avec trois merlans successifs de 9 mètres de haut et de plus de 30 mètres de long chacun. Mais cela empêche quand même l'expansion aujourd'hui du village pour ne pas mettre d'autres personnes en danger. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce chantier était assez expérimental à l'échelle française.
Mais merci à vous deux. Du coup, on va aller où le mois prochain ?
Eh bien, on va reprendre le Translozérien.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot-en-Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.